Le canard de Barbarie, la petite chèvre d'Afrique de l'Est, le manioc 52.80, le vitroplan de bananier, le riz Yunyin 4, autant de variétés et de diversité animale et végétale dont un pays comme le Burundi a bien besoin pour se relever de plus de 10 années de guerre civile. La reconstruction agricole et rurale est l'une des missions que s'est assigné le service des opérations agricoles d'urgence de la FAO avec le concours de la Commission européenne. Éric Donny est chef de la section développement rural à la délégation de la Commission européenne à Bujumbura.
Les priorités, malheureusement, elles sont un peu partout. Le système a été en quelque sorte désagrégé, décomposé par les périodes de conflit et on les retrouve aussi bien au niveau de la reconstruction des infrastructures que la remise en état, simplement de la reprise, la récupération des réfugiés qui ont quitté le pays, qui doivent revenir. Et ça se marque aussi au niveau de tout ce qui est sanitaire, de tout ce qui est éducation, de la santé aussi.
C'est effectivement une question que j'ai posée aux autorités. C'est des villages qui se recomposent, qui se reconstruisent, et des villages, il faudra donner des noms à ces villages, viabiliser ou même carrément au niveau des rues. Tout ça, c'est le développement rural, c'est comme ça que vous le voyez ou un peu plus loin?
Ça fait effectivement partie du développement rural. Le développement rural passe nécessairement aussi par la possession de la terre, par le fait de pouvoir l'exploiter. On exploite bien que ce qu'on peut exploiter en matière d'agriculture sur une certaine durée, en comptant d'années. Donc il faut effectivement, au-delà de tous les problèmes pratiques de fourniture de nourriture, de vraiment sécurité alimentaire, il y a derrière une sécurisation aussi de la production.
Dans un pays où 90% de la population vit de l'agriculture et de l'élevage, les axes d'intervention post-conflit sont précis et sans détour. Éric Pitois, assistant technique au service d'aide humanitaire de la communauté européenne ECHO, et Aloïse Nizigimana, agronome à la FAO à Bujumbura, se sont rendus dans les bananeraies d'Issa Majeke, un ancien déplacé, où une nouvelle variété résistante à la maladie BXW fait ses preuves. Ce qui suit est un dialogue entre Issa, Aloïse et Éric.
Donc là, il y a tout un travail d'évaluation qui est fait par la FAO avec ses partenaires. Quand les gens rentrent, on essaye avec les chefs de colline de voir qui a vraiment besoin d'une aide. Et une fois qu'on a des listes de gens à appuyer, on programme des distributions. Et là, il y a les distributions de nourriture pure et dure, j'allais dire du maïs, du haricot, quand les gens viennent de rentrer, mais aussi des distributions d'intrants agricoles. Et là, on parle, effectivement, c'est le cas avec Issa, de micro-plants de bananiers, de semences en haricots, de colocase et d'autres intrants. Et c'est des choses qui sont très positives, et là, on le voit bien avec Issa, puisque de 5 à 10 micro-plants de bananiers, on se retrouve avec un grand plant de bananes, et ça va même au-delà de cela, puisque maintenant, il arrive même à donner à ses voisins. Donc, on arrive à vuner un demi-hectare de bananeraies quasiment exclusives. Et on peut voir qu'il y a des bananiers qui sont là depuis longtemps, d'autres bananiers qui viennent d'être replantés. Au niveau agricole, ce que disent les agronomes, c'est que la façon dont c'est bien géré, puisqu'il y a 3 pieds à chaque fois. Donc ils ne laissent pas les petits rejets rester, au contraire, ils les enlèvent pour les replanter ailleurs. Donc on voit qu'au-delà du simple programme de distribution, il y a aussi tout un accompagnement et une formation de l'agriculteur pour qu'il se prenne en main.
En principe, dans la tradition burundaise, quand un voisin vous demande un rejet de bananeraie, vous donnez gratuitement. Maintenant, il est à ce stade. C'est-à-dire, s'il y a des voisins qui viennent, qui voient que sa bananeraie est bonne, et il peut lui donner un rejet comme ça gratuitement. Et comme ça, les bonnes variétés de bananeraie qui proviennent des vitroplans distribués par la FAO sont accessibles sur toute la colline et même un peu plus loin.
Cette variété a un nom scientifique ?
Il y a plusieurs variétés, ce n'est pas une seule. Hein. Généralement, on donne, si je ne parlais pas en termes très très scientifiques, on donne généralement 3 groupes de bananeraies. Parce que on donne des bananiers à cuire, des bananiers à jus et des bananiers à dessert. Et généralement, en fonction de la région, ça varie la proportion. Mais ici, chez Issa, je vois bien qu'il a plus de bananeraies à manger que de bananeraies à dessert.
Il en trouve à vendre aussi. Pour vous, ça va cette étape actuelle? Il peut enclencher sur une autre étape et ça serait laquelle en l'occurrence?
Alors, je pense qu'on est vraiment entre la rupture, entre le besoin d'appui et fructifier les capacités. Donc jusqu'à présent, Issa peut-être avait besoin d'un appui pour pouvoir survivre et avoir suffisamment de nourriture pour faire bénéficier sa famille. Je pense que là, on peut commencer à rentrer dans un stade de développement des capacités. Donc là, on rentre plus dans du long terme, dans du développement. Mais c'est bien parce que je pense qu'on a sorti Issa d'une vulnérabilité chronique avec une diversification de ses intrants agricoles, les bananes. Je vois qu'il a aussi du manioc. Je vois aussi qu'il a planté de la patate douce. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc avec cette diversification, je pense qu'il est sorti de cet état de vulnérabilité. Donc quelque part, ce n'est plus un bénéficiaire qui nous concerne, nous, en tant qu'éco bailleurs de fonds humanitaires d'urgence. Mais par contre, le relais doit être pris au niveau de la délégation de la Commission européenne pour relancer et dynamiser ses capacités pour que là, on aille vraiment vers le développement et qu'on fasse bénéficier cela à tout le monde.
Ah, vous avez entendu, au niveau des capacités, est-ce qu'il comprend ce qui lui est demandé par capacité ou ce qu'on attend de lui par capacité?
En fait,
Issa dit qu'il a besoin de renforcement de capacités, notamment des formations type en agriculture, mais aussi des échanges d'expériences avec d'autres qui se trouvent dans d'autres régions, parce qu'il n'a jamais voyagé, il n'a jamais visité d'autres agriculteurs modèles. Voilà.
J'ai bien entendu la doléance. C'est clair qu'on est maintenant dans un stade au Burundi où on sort quand même de la crise pour une grande partie des gens, qu'il faudrait un petit peu renforcer les capacités des gens, mais pour qu'ils sachent mieux cultiver encore. Pour le moment, au niveau de ECHO, c'est pas dans notre mandat, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dans le mandat de la délégation. C'est pour ça qu'avec la Commission européenne sur le Burundi, dans d'autres régions, mais bon, d'autres pourront aussi s'ajouter à celle-ci avec le projet PARSAD, il y a un renforcement des moniteurs agricoles pour accompagner les agriculteurs sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui est vital, qui est important, qui est lancé et qui devrait quand même commencer à donner des résultats, on espère, d'ici au moins une année, mais que vraiment on puisse voir une amélioration de l'état de fonctionnement des agriculteurs.
L'installation durable des déplacés devrait contribuer à reconstituer le tissu communautaire et national par des gestes de solidarité et d'assistance mutuelle. Pour le directeur général de l'agriculture, Sébastien Dikoumagenge, la solution est politique.
Politiquement, lorsque la sécurité sera rétablie, la politique dit qu'il faut que ces populations puissent retourner chez elles. Mais nous, côté technique, nous nous disons que dans notre pays est très peuplé. Alors nous disons que pour qu'on puisse développer l'agriculture, on ne peut pas laisser la population sur les collines. Les messieurs doivent les mettre dans les sites. Et nous pensons que dans les années à venir, ces camps de déplacés pourront devenir des sites pour que nous puissions nous mettre à développer l'agriculture. Parce que ça va nous faciliter à faire et la mécanisation et la vulgarisation. Parce que vous savez comment, si les gens sont ensemble, c'est facile de les vulgariser plutôt que de les trouver sur les collines.
Vous avez parlé de sites, mais ça peut aussi devenir des villages et porter des noms de villages avec des noms de rues. Comment vous prévoyez le développement rural?
Bon, pour ces changements de cadre de place en site ou village, c'est une politique qui sera étudiée. Et je pense que ça pourra être fait parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et je pense qu'à la longue, ces sites et cadre de place pourront devenir des villages. Et quand on va les créer, on pourra mettre des noms pour les identifier, ainsi de suite.
C'est quel mécanisme qu'il faut pour ça? Quelles opérations? Il faut passer par des recensements d'abord?
Oui, il y a des recensements, mais d'une part, mais aussi, il faut sensibiliser la population. Parce que vous savez que le Burundi, plutôt le Burundais, aime son pied de terre. Lui dire de quitter sa terre pour aller dans un village et pour aller cultiver sa terre sans être sur place, ça serait un peu difficile. Je pense que c'est un problème politique et on en a souvent parlé avec les parlementaires, tout ça. Je pense qu'on est en train de sensibiliser au niveau politique et je pense que d'ici quelques années, la population sera consciente que sans se mettre ensemble, on ne pourra pas se développer.
Pour répondre au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté du gouvernement du Burundi, la Commission européenne concrétisera son aide avec une enveloppe de 180 millions d'euros sur les 4 ans à venir. Un montant qui devrait entre autres couvrir la formation de quelque 2800 formateurs agricoles dans le cadre du projet d'appui à la restauration de la sécurité alimentaire, le PARSAD. Le mot de la fin avec Jean-Pierre Rinson, coordinateur des opérations agricoles d'urgence de la FAO à Bujumbura. Il plaide pour une harmonisation des interventions des bailleurs et des partenaires.
Depuis à peu près 6 ans, nous avons mis en place un programme de suivi déjà qui s'appelle le suivi de la sécurité alimentaire et d'alerte précoce dans ce pays et qui nous donne des indicateurs, peut-être pas des valeurs intrinsèques, mais des indicateurs sur toutes les provinces du pays et qui nous permettent d'intervenir et d'être parfois proactifs par rapport à certaines, chocs qui peuvent arriver. Et cette méthode de suivi que nous avons mis en place nous permet justement de réagir assez rapidement, de mobiliser nos partenaires et également de faire un plaidoyer réaliste, juste et tout à fait neutre et impartial. Et je crois que c'est, disons, une activité qui est très importante et qu'il faut la faire durer. Nous sommes en train d'enclencher, de démarrer ce suivi dans un contexte plus régional qui est l'IPC. D'autres collègues vous en parleront sans doute, pour avoir, disons, une lecture commune de la situation de la sécurité ou de l'insécurité alimentaire dans la région et pour que nos partenaires, les bailleurs, la communauté internationale puissent, disons, également avoir une même lecture de cette insécurité alimentaire.
Avec le concours depuis Bujumbura, des experts de l'FAO, du service d'aide humanitaire de la Commission européenne ECHO et de la délégation européenne.